Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM. Alors pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que dernièrement on a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis, on a beaucoup parlé des travaux du Grand Paris et des Jeux Olympiques. Cette semaine, Zoom Écologie va plutôt vous emmener dans la banlieue sud, puisqu'on est allé le week-end dernier faire un tour en Essonne avec le collectif Contre la Ligne 18. On est allé se promener sur le plateau de Saclay, entre Gif, Surivette et Palaiseau. Alors la ligne 18, pour rappeler un peu, c'est la ligne du Grand Paris Express Sud qui accompagne tout un projet d'aménagement du plateau de Saclay avec notamment ce qu'ils appellent le cluster scientifique qui est un regroupement de grandes écoles, de labos, de facs et d'un hôpital, c'est-à-dire un méga projet de bétonisation qui va artificialiser des centaines d'hectares de terres qui sont pour l'instant des terres agricoles dans une logique un peu qui échappe à la logique. On va dès maintenant vous emmener faire un petit tour sur le plateau de Saclay avec les camarades du collectif Contre la Ligne 18.
En là, c'est une petite organisation de randonnée, donc je vais la mener comme si vous étiez des néophytes. Donc le plateau de Saclay, c'est un plateau qui est situé au sud-ouest de Paris, à 11 km à vol d'oiseau. Et il commence à Palaiseau, donc il est situé est-ouest, hein. Il commence à Palaiseau et se termine grosso modo vers Saint-Quentin-en-Yvelines, Billancourt. Donc c'est un plateau qui fait 13 km de long et 6 de large et qui est situé dans la région du Hurepoix. Et dont la capitale est Dourdan, un petit peu pour vous situer un petit peu ça. Donc le plateau de Saclay, il a encore aujourd'hui une vocation agricole. Et pendant longtemps, en fait, il a été relativement peu urbanisé ou occupé, peu occupé par la présence humaine. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Mais voilà, jusqu'aux années 70, le plateau, il est laissé relativement tranquille. Et notamment, il y a le projet de ceinture verte dans les années 70 qui vise à protéger sa vocation agricole et de liens, en fait. Il y avait cette idée de créer une ceinture verte autour de Paris. Et du coup, le plateau de Saclay, il faisait le lien entre le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, en Rambouillet, et je crois que c'était le parc de Saint-Cloud, la forêt de Meudon, etc. Voilà, il y avait une espèce de continuité comme ça, verte. Et puis bon, ce projet, il a été abandonné vers 2008 avec le projet du Grand Paris. Donc voilà, on va aller visiter le plateau de Saclay. Les enjeux du plateau de Saclay. On va commencer par la partie agricole et qui est représentative un peu de ce que ça a été pendant longtemps. Et puis après, on ira voir quels sont les projets qui menacent ces espaces agricoles.
Il reste combien de fermes actuellement à activité sur le plateau ?
Alors, il en reste. En fait, il n'y en a qu'une qui n'existe plus. Sinon, à peu près pour le reste. Je sais pas combien il y en a, tu disais combien, François ?
Entre 5 et 7 en grosse activité.
Mais sinon, voilà, je pense qu'il y en a plus que ça.
Moi, c'est peut-être 10 ou 11.
Moi, je dirais 14.
Ouais, moi, j'avais dit 14.
Parce qu'en fait, on compte aussi tout ce qu'il y a sur Verguillancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des grosses exploitations céréalières et de plus en plus, les activités agricoles ont tendance à se diversifier vers du maraîchage, de l'élevage et autres activités. Mais ça aussi, je vous en parle un petit peu plus en détail. Voilà. Mais de rien, alors on peut. Ouais.
Moi je vais rester derrière avec mon bâton et je vais pousser celles et ceux qui n'avancent pas assez vite.
Ouais, vas-y. Parce que donc là, quand même, on est au milieu des champs et il y a à côté de nous, à droite, un bâtiment assez. Enfin, on compte qu'il est quand même assez gardé. Il y a un barbelé tout ça autour. Et donc ça, c'est le CEA.
Donc le Commissariat à l'énergie atomique.
Ouais. Qui est comme posé au milieu des champs d'ailleurs.
C'est ça, qui est posé au milieu des champs. Il est là depuis 1952. Ouais. Donc il y a eu pas mal de recherches sur le nucléaire civil et militaire qui ont été faites ici. Et là, il a été arrêté parce que, bah, justement, pour pouvoir construire le cluster et des gares, etc., il y avait un périmètre de sécurité autour de cette installation nucléaire.
D'accord. Donc là, l'installation, elle est déserte, là?
Non, non, elle n'est pas déserte, pas du tout. Non, non, okay. C'est que les réacteurs ont été arrêtés il y a quelques années, mais comme peut-être vous savez, quand on arrête un réacteur, c'est pas immédiat, donc il faut le temps que les réactions en chaîne s'arrêtent. Et donc ils ont fait ça et on a appris. Qu'il avait fait un peu dans la précipitation. Et que notamment, en fait, il y a tout un département qui travaille sur le traitement des cancers ici, qui va se retrouver en pénurie de matériel radioactif pour les traitements. Okay. Parce que voilà, ça n'avait pas été programmé, mais il a fallu faire vite pour permettre le cluster.
Et là, du coup, les champs, pour l'instant, autour de vous, il n'y a aucune habitation. Et c'est là qu'ils veulent mettre une gare derrière, là.
Voilà, ils veulent mettre une gare pour desservir le CEA et le village de Saclay où il y a pour l'instant 4000 habitants.
Ouais, d'accord.
Et donc le projet, c'est de passer à Saclay de 4000 à 12 ou 20 000 habitants.
Ok. Voilà. Ce qui implique effectivement des nouvelles infrastructures.
Voilà, des nouvelles infrastructures. Et alors la dernière mouture du projet de ligne 18, c'est un passage au sol de la ligne 18 à partir du CEA à Saclay. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ça va traverser les champs. Ouais. Et donc, ça va rendre encore plus compliqué le franchissement pour les engins agricoles, etc.
C'est évident, ça va faire une barrière. Ouais.
Ça va faire une barrière, à la fois pour les bestioles et puis aussi pour les agriculteurs. Et donc, ça c'est pire encore pour que le projet sur viaduc, qui était jusque-là celui sur lequel on s'était prononcé déjà négativement. Donc là, il y a encore une nouvelle... Donc, on attend l'enquête publique, qui ne devrait pas tarder à arriver. On s'imagine qu'ils vont la faire en juin, juillet, août, comme ils ont
l'été, c'est
l'habitude
mieux,
de le faire.
Ok, ouais.
Bonjour. Donc voilà, là, vous commencez à vous approcher de ce qu'on appelle Babylone.
Ça, c'est en plus, alors.
Ça, c'est la Zague du Moulon. Donc là, le bâtiment qu'on voit qui est gris au fond, c'est le NS. On ne passera pas plus près. Ouais. Et en face, c'est les laboratoires Servier qui sont en train de s'installer.
En face, c'est quoi les laboratoires Servier?
En face du bâtiment gris, là. Tu vois, juste en face, qui est en train d'être construit. On ne le voit pas, là. Tu vois les Algeco du chantier, mais tu ne vois pas encore. Et tout ça, c'est le complexe sportif. Donc, ils ont artificialisé des terres.
Le bleu, là.
Ouais, tout ça, c'est, tu vois, tout ça, c'est le gymnase, il y a des stades de foot, on va facilement.
Mais c'est horrible.
Et en fait, ils ont artificialisé des super terres. Et après, ils veulent faire un parc sur la friche Thalès. Donc, dépolluer la friche pour faire un parc et artificialiser un truc où ils auraient pu faire le parc. Ouais. Et on n'a pas arrêté de leur dire, mais juste changer le complexe sportif, vous le mettez à Thalès et le parc, vous le mettez. Enfin, non. Non, non, et puis pouvoir le projet de parc avec le château.
Saint-Doumba.
Alors là, il y a 5 gros ponts. Ça, c'est un truc hyper, hyper prestigieux aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe. Mais il y a des listes d'attente, il y a des gens qui viennent du monde entier pour faire des expériences. C'est un accélérateur de particules.
Ouais, il y a quelqu'un qui nous en a parlé tout à l'heure, une dame qui bosse.
Et donc, il y a des mois d'attente pour venir pouvoir manipuler pendant une semaine. Alors là, on va arriver dans le vide. Le vide entre les deux pleins.
La fameuse ville nouvelle, elle serait sur ce
point-là. Entre les deux ZAC. Donc tu vois, celle qui est au bout là-bas, la ZAC Polytechnique, et donc la ZAC du Moulin.
Joseph, c'est ça l'entre-deux dont on parlait.
Et là-bas, c'est le laboratoire des sciences du climat, avec Véronique Delmotte-Masson, quand même, au GIEC, machin. Elle est toute contente d'avoir son nouveau bâtiment de béton. Et vous allez voir le corridor vert, vous allez rigoler. Hein. Ouais, le corridor écologique, ça vaut sa petite visite. Et là, c'est la ferme de la Martinière où on va descendre à la prochaine. On descend à la prochaine. Là, c'est la ligne 18, l'hôpital, et là, vous allez avoir le nouveau quartier de Corbeville.
Ici, la ligne 18, rien. Ici, la ligne 18.
La préfecture, je crois que c'est...
T'as un petit topo à faire, Sabrina ?
Non. Juste pour vous dire que ça serait l'hôpital et on avance encore vers le corridor écologique. C'est quoi le corridor écologique ? C'est quoi un corridor écologique ? Alors c'est un couloir de différents espaces verts et qui permet par exemple aux batraciens, aux petits animaux, aux petits mammifères qui vivent sur le plateau de Saclay de pouvoir toujours se déplacer d'un endroit à l'autre sur le plateau.
Mais là, ça a carrément interrompu le corridor.
Alors là, oui, effectivement, on peut constater que le corridor, il est interrompu. On l'a fait remarquer à l'enquête publique en 2018, un urbaniste qui trouvait ça tellement génial. Et elle ne nous a pas répondu. Hein.
Voilà. Et donc là, on a... Ce corridor, il va jusqu'où, là ?
Il est censé... Là, il va jusqu'à la route, là-bas. Après moi j'ai pas. En fait je peux pas en parler, j'ai pas compris. Non mais très honnêtement en fait, j'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas très bien à visualiser. Pour l'instant, il y a cette partie-là qui est interrompue ici, donc je sais pas, ils vont faire un sous-coup. Je sais pas, compte faire. Il y en a une autre partie là. Je suppose qu'après le but, en face c'est la Friche Thalès où ils veulent faire leur parc. Donc je suppose qu'après ça va aller vers le parc. Et puis après c'est censé remonter comme ça vers Moulon pour aller jusqu'à Villiers. Mais moi, j'ai pas bien compris.
C'est la ligne là, qui passe là.
Ici, c'est la ligne, ouais.
La ligne de métro 18.
Oui.
Bah oui, entre les deux.
Là, on est sur le tracé de la ligne de métro,
ouais.
Depuis tout à l'heure.
Ouais. Ils attendent en feu rouge, les crapauds, ils attendent.
Donc on va prendre le chemin, on va aller jusqu'au Bosquet et on va faire demi-tour après.
Donc juste là, on vient de quitter le chantier de l'AgroParisTech, du futur AgroParisTech. Et ouais. On s'engage au milieu de ce qui était des champs.
Ouais.
Et là, tu disais que le sol sur lequel on marche...
Ben, c'est une nouvelle route, mais qui n'était pas là à la première promenade qu'on a faite en mars. Et on est le 2 mai. Du coup, juste j'ai halluciné parce que c'était que de la terre. Et là, on vient de quitter la route, mais c'est tout neuf, quoi. Donc je pense que c'est une route qui permet l'acheminement des engins et tout sur la ZAC de Corbeville où va se faire le nouvel hôpital. Mais juste c'est fou la vitesse à laquelle ça va, quoi.
Donc là on est sur l'ancien site de l'école polytechnique qui a été en partie racheté par les PAPS. Enfin bon, je connais pas le détail de leurs petites affaires, mais en tout cas là c'est la tranchée, c'est la ligne 18 qui va arriver ici pour aller là, derrière le Danone. Et ça, c'est la gare Palaiseau. Hein, donc tout à l'heure, vous allez prendre le RER à Palaiseau, vous verrez bien. Oui, voilà. Donc la gare Palaiseau, c'est là. Donc on fait croire aux Palaisiens qu'ils vont avoir une gare de la ligne 18 sur leur territoire. Et en réalité, c'est très loin de toute habitation. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu... Et donc on va avancer et là vous allez voir les travaux du centre de maintenance de la ligne 18 qui s'étale sur 8 hectares qui étaient jusque-là des champs, des coteaux, enfin des terrains vagues, bois, enfin en tout cas pas, c'était pas artificialisé. Et là vous allez voir ce que ça donne maintenant et puis après la fin de la balade ça sera au niveau du puits du tunnelier. Là où le tunnelier est censé commencer à creuser le tunnel jusqu'à Massy-Palaiseau.
J'en place VR, par JR, je suis loin de Dallas. Je foque l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Je refuse qu'on soit soumis, je sors le gala. Je suis un lion, pas un mouton, je suis comme Baba. Je traîne dans la city bourrée de vis. J'ai la bouche pleine, pourtant je dois goûter le vide. Le miroir est net, le visage est brisé. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Pour le coup, je suis pas une star d'Hollywood. Pas les couilles, je fais du Beverly Hills. À nous sert de jouer les thugs, on est cool. Même deux glocks peuvent te faire des pisses. Je suis QLF, je suis mes amis en mine.
Trop parano pour faire un Miami. Et bah les couilles, j'suis pas une star d'Hollywood. J'remplace VR par JR, j'suis loin de Dallas. J'fuck l'esclavage, j'revends la blanche à Obama. J'refuse qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme Baba. Je veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flinguée, nous c'est cigare Al Capone. Et tu, ah, ah. Je veux juste un cocktail frais.
Pas de fatigue ou pas de suicide de bite. Représente les biens comme il faut dans le shit comme dans la zik. Ouais, tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie, donc ne pose pas de questions ou interview ma bite. Peace, 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 peace. Faut qu'on claque ce liquide. Prenez note dans cette vie avant de partir en chute. Toutes les rues sont vides et les fenêtres donnent sur nous. Âme tordue dans la ville, on fait peur à ton genou. Un regard froid sur le pétard. J'claque du fric comme à l'ancienne juste pour voir. Rien mieux que la famille, on est baisé au ralenti. Je t'aime plus que ma vie, ton rire pour m'en sortir. Ça a démarré dans le zoo, dans la haine pour les keufs. Dans le stress, dans les fours, dans les tirs, près de mes rêves. Puis l'argent séparé, pas longtemps juste pour la vie. J'fais le tour du monde, j'm'en fume, j'm'ennuie. J'monte sur scène à nuit, elle crie mon blast. J't'aurais bien fait faire un tour du ghetto conjoint des Lagnax. Tortage au max, j'fais le tour, j'me casse. Presque tout mon lit, à part les baisers. J'ai trop fumé, trop percé. À part ça, on les pénètre. J'brise rêve de goût de tes rêves. On prend le monde sans vivre, monde ou rien de père en fils. Nine, one,
j'en dis. Par JR, j'suis loin de Dallas. J'fuck l'esclavage, j'revends la blanche à Obama. J'refuse qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme Baba. J'veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flanquée, nous c'est cigare Al Capone. Et tu, ah, ah. Je veux juste un cocktail frais.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM et vous aurez reconnu PNL dans Zoom Écologie. Évidemment, on passe PNL parce que ce soir, on est dans l'Essonne. On est sur le plateau de Saclay avec le collectif contre la ligne 18 qui nous présente un peu les enjeux actuels de la bétonisation de cet espace agricole qui se situe donc dans la banlieue sud de Paris. On retrouve tout de suite le collectif contre la ligne 18 qui va nous présenter un peu justement le plateau et ses spécificités.
Là, on est devant la carte, donc en fait la carte officielle sur laquelle des choses ont été rajoutées, ouais. Qui est celle donc, du plateau de Saclay. Donc déjà pour se figurer la chose, c'est qu'en fait le plateau il est séparé par trois vallées qui forment comme un triangle, c'est ça. Donc ouais. c'est quoi, c'est, donc, on est au sud. Alors montre-nous parce qu'on est sud-Essonne.
La vallée de la Bièvre, en fait, c'est le RERC qui circule dedans. Hein. La vallée de l'Yvette où circule le RERB. Et puis il y a un embranchement effectivement au départ de Gif-sur-Yvette qui crée la vallée de la Mérantaise qui est ici, voilà.
Et qui après rejoint sur le côté ouest plutôt Saint-Quentin-en-Yvelines.
Voilà, tout à fait. Donc le plateau s'étend de Massy à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ouais, au sud de Versailles.
C'est vraiment une continuité géographique. Là, du coup, c'est un plateau. On voit quasiment d'un bout à l'autre du plateau. Quoi.
C'est ça. Parce que c'est très plat. Et alors, surtout, on voit bien la différence qu'il y a entre le dessus et l'endroit du plateau. On a des espaces qui sont très urbanisés tout autour.
Oui.
Et le plateau qui, lui, voilà. Est encore plutôt agricole.
Voilà. Alors, en fait, il a été préservé parce qu'il est d'accès difficile, justement. C'est-à-dire que pour accéder à ce plateau, il y a des routes qui sont relativement sinueuses. Qui ne permettent pas de faire passer des transports capacitaires. Le seul axe en fait, qui traverse le plateau, c'est la 118, la nationale 118, qu'il faut trouver ici. Là, je pense que c'est...
En tout cas, c'est celle qui monte et qui coupe le plateau en deux et qui est souvent, d'ailleurs, coupée à cause des intempéries.
Parce qu'effectivement, elle a des dénivelés importants, du coup, parce qu'il faut qu'elle franchisse ce plateau. Et donc, c'est en partant de Verglas, par exemple, c'est souvent... la 118 est souvent bloquée du côté d'Orsay. Donc, elle traverse le plateau comme ça du du sud au nord. Et après, on a ce qu'on appelle la RD36, une route qui traverse le plateau dans toute sa longueur.
Est-ouest. Et alors, donc, l'endroit qui devrait être, enfin, qui est en train et qui est déjà très largement urbanisé, c'est plutôt du côté de Orsay, avec le développement du nouveau campus qui est donc au sud du plateau, lui.
Voilà, voilà. Alors ça, c'est le plus gros morceau de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, qui est le campus urbain Paris-Saclay, situé donc sur la frange sud du plateau, ici, pour créer une Silicon Valley à la française.
Alors donc là, sur cette carte qui a été donc augmentée par rapport à la carte officielle, on a donc les nouveaux transports en commun qui devraient être construits avec la fameuse ligne 18 du Grand Paris Express.
Voilà. Alors on les a fait apparaître bien clairement, pour montrer en fait que la ligne 18 triple en fait des transports existants, c'est-à-dire le RER C et le RER B qui sont déjà des transports est-ouest. Et on voit par exemple que la ligne 18 et le RER B sont très très proches sur quasiment toute la longueur du campus urbain. C'est-à-dire qu'on aurait pu trouver et on aurait pu étudier des solutions qui consistent à desservir ce campus urbain à partir des gares de Valais en faisant des connexions. Évidemment, il faut franchir justement ce dénivelé entre le plateau et la vallée, donc c'est techniquement un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable, et c'est faisable notamment avec des téléphériques, voire des funiculaires. Hein, ça pourrait être fait, par exemple, du côté de Lozère, ici, il y a une très petite distance, et ça permettrait de desservir de façon très agréable une partie du campus polytechnique.
Alors, le problème qui se pose au-delà de ça, c'est que malgré tout, donc, il s'appelle campus urbain, mais en fait, il n'est pas du tout urbain, c'est qu'on est quand même dans des espaces qui, même s'ils sont dans des zones qui sont déjà urbanisées, sont en fait grands, ça fait plusieurs kilomètres de côté. Et qu'en fait, avoir une gare ou même un funiculaire à un endroit n'empêche pas le possiblement 20 minutes, une demi-heure de marche pour relier les différents établissements sur lesquels on est. Ça, en fait, c'est quand même des campus qui sont très grands.
Distances sont immenses, les distances sont très grandes. Et c'est la raison pour laquelle aussi la ligne 18 n'est pas du tout adaptée, parce qu'elle n'aura que deux gares. Elle aura une gare ici. En entrée de politique, et une autre ici.
Qui en gros sont deux entrées sur les deux pôles est et ouest du campus.
Et il y a entre les deux 2,6 km. Donc, il est clair qu'à pied, on ne pourra pas relier l'un à l'autre, et que toutes les personnes qui travaillent à d'autres établissements ici, finalement, vont trouver qu'il n'est pas du tout intéressant d'aller chercher la ligne 18, Dieu sait où, à Massy ou ailleurs, pour venir, alors que la plupart habitent dans cette vallée, mais vont plutôt tenter de rejoindre le plateau.
En voiture,
voilà. On sait déjà, en fait, qu'il n'y aura pas de réduction de la congestion automobile sur le plateau de Saclay.
Voire même une augmentation des routes avoisinantes, en fait, qui font le tour.
Tout à fait, oui. Il y a effectivement, et c'est bien la preuve d'ailleurs que les aménageurs ne croient même pas à cette décongestion routière, c'est que parallèlement à la ligne 18, ils ont déjà prévu l'élargissement de la route la RD36, celle qui traverse le plateau.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que évidemment, le campus n'est pas pensé en termes de bassin de population. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconcentre tout un espèce d'établissement qui n'existait pas déjà là, c'est des personnes qui vont devoir, de toute façon, que ce soit en transport en commun ou en transport personnel ou autre, de se déplacer ou se reloger, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on vient de créer là, c'est des mobilités forcées supplémentaires. Donc voilà. Alors déjà, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté en bas, mais ça, c'est une carte de l'ensemble, en fait, la totalité du plateau de Saclay et des périmètres d'intervention de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Et donc, vous voyez que, en fait, le campus Paris-Saclay, c'est-à-dire la partie académique de ce projet, c'est la partie qu'on voit ici, pleine de bâtiments, là, en blanc. Ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble de l'opération internationale, mais c'est le prétexte qui a été utilisé pour lancer tout le reste. Et donc cette partie, c'est le fameux cluster scientifique, le MIT à la française, Silicon Valley à la française, que Sarkozy a annoncé en 2006, je crois. Et qui a été lancé donc à travers la loi du Grand Paris et l'opération internationale. Et pour la plupart, ce sont aussi des constructions qui ont été faites en partenariat public-privé, c'est-à-dire en gros avec nos dettes à venir. Hein. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Au départ, effectivement, l'État ne paye pas forcément très cher, mais il s'engage à payer un loyer exorbitant pendant des décennies. Ou c'est les établissements, par exemple, ça va peser sur les frais courants des établissements ou des universités qui vont s'installer. Bon, qu'est-ce que c'est que ce cluster, en fait ? C'est on prend partout, un peu partout des établissements de recherche, des écoles, et on les déménage sur le plateau. C'est-à-dire qu'on ne crée rien de nouveau, on concentre. Donc ça, c'est déjà une philosophie un peu contestable. Et ensuite, on ne se prive pas de faire des opérations immobilières à la fois en déménagement de ces établissements, on libère des locaux dans des endroits qui sont souvent bien desservis, bien équipés, et donc ça a une certaine valeur, une valeur financière. Et ensuite, eh bien, on va transformer des terres agricoles en zone urbaine. Et là, à nouveau, opération foncière spéculative très intéressante, puisque le mètre carré de terre agricole est exproprié, c'est déjà un prix supérieur au prix de la terre agricole, à environ 3 à 5 euros le mètre carré. Tandis que le même mètre carré déclaré urbanisable et même pas encore viabilisé peut se négocier à 200 ou à 300 euros le mètre carré. Donc déjà, il y a quelques milliards là qui se sont créés, hein, ex nihilo, sachant qu'au total, l'ensemble de ces deux actes, alors on ne se rend pas compte des distances ici, mais c'est vraiment énorme, c'est l'ensemble de ces actes ici, totalise 670 hectares aménagés, dont 400 hectares de conversion de terres agricoles, de bétonnage de terres agricoles. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour dire que donc cette zone et tout ce qui est en vert ici représente ce qu'on appelle la zone de protection agricole, naturelle et forestière.
La propagande de la
voilà. Et donc, prétendument, cette zone est sanctuarisée. Donc on nous dit, mais pourquoi vous inquiétez, le métro va traverser les champs, mais c'est pas grave, on va les respecter. Mais on voit très bien, alors il y a plein d'arguments qui montrent que ça résistera pas, mais on voit très bien la mauvaise foi de la SGP dans son comportement actuel. Enfin, c'est vraiment clair que l'agriculture, c'est le dernier de ses soucis. Voilà. C'est le dernier de ses soucis, et c'est le dernier des soucis aussi, c'est plus grave. Des services de l'État. C'est-à-dire que la préfecture, la DDE, ne s'occupe pas du tout d'obliger la SGP à respecter ses engagements. Voilà. Donc cette zone de protection, elle sera toute théorique. Si les agriculteurs ne peuvent plus économiquement exploiter leur champs, eh ben, ils vont disparaître. Et puis on aura un bien meilleur usage à faire de ces terres traversées par un métro. On va mettre des habitations à côté, bien sûr. Voilà. Il y a aussi des bilans socio-économiques qui montrent que ce métro ne pourra être rentable qu'à condition d'urbaniser tout le long de son trajet. Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc dans les bilans socio-économiques de la ligne 18, mais c'est un petit caractère bien caché. Donc c'est pas le discours que vous tient la SGP officiellement. Donc sur ce campus urbain, j'ai dit deux ZAC, en fait il y en aura peut-être trois, on se bat contre la dernière. Donc la première ZAC, c'est la ZAC du Moulon, la deuxième c'est celle de Polytechnique, et entre les deux ici, les aménageurs ont déjà représenté leur rêve, hein, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent, ici c'est encore des terres agricoles, c'est la zone de Corbeville, et là il y a un projet de faire une ville nouvelle pour faire la continuité, hein, puisque bien évidemment, voilà, il faut qu'il y ait une homogénéité entre tout ça, et donc sur ce campus qui a donc des dimensions très 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 importantes, hein. Enfin il y a 6 km ici, donc c'est un endroit que, une fois qu'on est dessus, vous allez voir, c'est assez impressionnant, c'est assez lourd, hein. On se dépasse pas facilement à pied, mais en même temps on a concentré sur moins de 6 km, on veut concentrer sur moins de 6 km 20% de la recherche française. C'est-à-dire c'est une aberration, c'est un délire total, quoi. Enfin, il n'y a pas un pays qui fait ça. Sur ce plateau, maintenant, c'est quasiment fait. On a déménagé Centrale Supélec, Agro Paritech, ça va venir. Il y a un certain nombre d'écoles. Il y a des écoles dans le périmètre de Polytechnique, l'ENSAE, l'ENSTA. Voilà. Le NS Cachan, merci, j'en oublie. Pour faire bon poids aussi, on amène des équipements publics. Donc on installe un hôpital sur le plateau de Saclay, on en a peut-être parlé déjà. Et donc cet hôpital au milieu des champs, hein, pour l'instant, puisqu'il sera à Corbeville, eh ben, il va justifier la fermeture de 3 hôpitaux dans les vallées, dans les agglomérations, en créant un désert médical de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Il y a aussi la sous-préfecture qui est déménagée depuis Palaiseau, et puis un lycée international qui va ouvrir prochainement. et qui permet de vider les classes de Palaiseau de leurs meilleurs élèves, voilà, pour les concentrer sur le plateau. Voilà la philosophie de ce projet. On écrème, on prend le meilleur ou le soi-disant meilleur, et puis on fait de l'excellence avec, voilà. Et puis pour les autres, eh ben, ils se débrouillent.
Space, no, that shit's not to waste, yo. Still better know your place, yo. I ain't slept good in days, yo. On job running up pace, so we smoke too, right? You say so. I'm back on my bullshit. You ain't seen no one like me since Lauren Hill back in the 90s, bitch. Feeling herself, yeah, I might be bitch. Got an old soul when you know that, but the olders make way for the 90s, kid. Please don't kill my high. I've been working non stop, never tired, no. That girl is on fire, you know. All stay bringing them vibes, you know. Truth, no, that shit's just for you. Can't nobody be meddling through. I'm paid now when I got shit to lose. Look at where we are, who would've guessed, who knew? I did, that's for sure. I kicked down the doors, they try not let me in. Fuck that, I crashed the party. Fuck that, I am the party. Don't get me started. I am a one-woman army. I am the force that will speak of. What's a wave to a tsunami? True, my drip enormous. Your tap running out, talk about awkward. My thoughts hella distorted, but got my foresight, I was moving forward. Sight go. I'm a parent in this thing, so I'm told. Solid as a rock, simply never fold. On crud, you can hear it in my tone. Watch yourself, be cool, don't stress. Get back to you when I can. Messages on red. Ain't new to this shit, I've been blessed. No love, you can get the drama instead. Oi, you can get the drama instead. All this smoke to your head. You can get your whole career dead. Can't get my foot off your neck. Go get a bag and invest. That's at that interest. I'm fuckboy resistant. Looking like a bulletproof vest.
This is for me now. 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 Feel the baseline. Feel the baseline. This is for me now.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM. C'est jeudi, c'est Zoom Écologie. Et on vient d'écouter Little Sims en attendant de retrouver le collectif contre la ligne 18 donc, qui se mobilise dans la banlieue sud, dans l'Essonne, contre la bétonisation des terres du plateau de Saclay, notamment par la construction de cette ligne sud du Grand Paris Express. On retrouve tout de suite une des militantes du collectif de la ligne 18.
Donc on est avec Sacha du collectif contre la ligne 18. Est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu comment ce collectif il s'est constitué et les premières actions que vous avez menées là récemment?
Alors, moi ça fait longtemps déjà que j'habite dans le coin, enfin, je suis giffoise de naissance et j'avais pas du tout entendu parler de lutte contre la ligne 18. Au contraire, nous on nous vantait ça un peu comme un truc stylé pour les jeunes. Et parce que je suis étudiante. Et en fait, en octobre, il y a eu un appel à occuper les champs d'agriculteurs du plateau.
Un appel qui avait été lancé un peu par qui, est-ce que tu sais ?
Notamment par Extinction Rebellion. En gros, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui ont demandé à Extinction Rebellion et à d'autres personnes militantes sur le plateau de venir les aider parce que ils voyaient pas comment faire entendre leur lutte autrement que par l'occupation du terrain. Et du coup, moi, dès le premier jour, avec quelques potes, on est venus dormir dans les champs. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans la lutte dans le coin. Et à l'issue de cette occupe qui a duré une bonne semaine, on a décidé de créer le collectif contre la ligne 18. Contre la ligne 18 et l'artificialisation des terres. Et du coup, ça, c'était à l'issue du camp, lors d'une assemblée écologique et sociale qu'on a tenue dans la ferme des agris qui sont avec nous, quoi, qui nous soutiennent. Enfin, on les soutient, ils nous soutiennent. Et du coup, voilà, donc c'était le début du collectif. Donc franchement, c'est un collectif assez nouveau, surtout sur l'histoire longue de la lutte contre les aménagements induits par le cluster scientifique et aujourd'hui la ligne 18. Parce qu'en fait, depuis les années 2000, enfin même avant, en fait, il y a toujours eu des militants sur le plateau pour protéger les terres agricoles. Même
même quand il y a eu l'aviation qui s'est beaucoup implantée sur le plateau, moi j'ai lu quelque part, enfin j'ai lu dans pas mal d'ouvrages parce que je fais mon mémoire aussi sur le plateau, que t'avais des anciens, des paysans à l'époque, donc c'était dans les années 50, même pas, je crois que c'était les années 40, qui plantaient des piquets dans les champs agricoles pour empêcher les petits avions de se poser. Donc c'est un territoire qui a quand même été longtemps conflictuel. Et qu'il y a une grosse tension en fait sur l'accaparement d'un espace qui est vraiment aux portes de Paris. Ouais. Comme avec Gonesse au nord, Saclay c'est pareil, mais avec le sud c'est les premières terres agricoles aux portes de Paris. Et du coup c'est un espace qui doit en fait logiquement être urbanisé dans la logique actuelle des choses quoi. Ouais, le collectif contre la ligne 18, donc tu disais, il a été créé récemment. Alors là, si j'ai bien compris, il s'organise aussi avec d'autres groupes et d'autres associations. En tout cas, on essaye de se concerter un peu avec d'autres qui existaient déjà, qui ont déjà commencé à se mobiliser. Parce que l'aménagement du plateau de Saclay, comme tu disais, il a commencé il y a déjà un moment. C'est pas tout neuf, même si la ligne 18, c'est la dernière étape. On voit bien que c'est déjà pas mal construit, pas mal bétonné. Je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot aussi ?
Ouais, c'est clair. En fait, heureusement qu'il y a d'autres assos ou d'autres collectifs qui préexistaient à notre arrivée dans la lutte. Notamment Saclay Citoyens, qui est un collectif qui, lui, a plutôt tenté des recours juridiques et a vraiment posé sa lutte sur l'argumentaire, enfin un argumentaire vraiment détaillé des alternatives possibles, qui a vraiment démonté point par point les arguments de la SGP, comme quoi la ligne 18 serait déjà rentable, ensuite qui ne serait pas néfaste pour l'environnement, et enfin serait utile pour les gens du coin, alors qu'en fait pas du tout. Et du coup, heureusement qu'il y a eu ce travail qui a été fait, parce que bon, moi mon truc c'est pas tant passer ma vie dans les dossiers, je pense que eux non plus, enfin c'est chiant comme boulot, moi je préfère occuper les champs quoi. Et du coup c'est très bien parce qu'on peut insuffler un autre aspect de la lutte quoi. En fait c'est bien d'avoir en même temps sur une lutte sur toute cette ampleur, parce qu'on est quand même sur un projet qui coûte plusieurs milliards d'euros qui sont déjà investis, donc c'est énorme. C'est bien d'avoir un volet vraiment argumentaire, un volet juridique et un volet plutôt désobéissance civile et occupation du terrain quoi. Donc c'est cool d'arriver et d'avoir déjà le travail déjà pré-mâché quoi. C'est très très bien. Du coup on essaie de rester en contact et créer du lien entre ces collectifs qui existent. Après on est beaucoup de nouveaux en fait dans le collectif contre la ligne 18 et d'assez jeunes en fait, même si là les jeunes se sont pas levés un dimanche pour faire la promenade, mais en fait on est pas mal de jeunes.
Ouais, et tu disais aussi sur le que là on est sur un modèle de projet imposé, au sens où on est dans une structure juridique administrative qui en fait éloigne l'ensemble des élus et des citoyens de la décision qui est prise, avec des structures particulières où en fait personne n'a son mot à dire à part les gestionnaires de cet espace.
À part les établissements publics, ouais carrément. En fait c'est un espace marqué par une OIN, une opération d'intérêt national. Et en fait, à partir de ce moment-là, la maîtrise foncière, la maîtrise de l'aménagement est complètement pilotée par l'État via ces établissements publics. Donc ici, c'est l'EPAPS, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Et pour la ligne 18, c'est la SGP, Société du Grand Paris. Donc ça, c'est deux établissements publics. Et souvent, les gens ne savent pas trop ce que c'est la SGP, mais en fait, la SGP, c'est l'État. Les décisions, elles sont prises dans les cabinets du ministère. C'est pas autre chose quoi, et surtout c'est pas les maires qui ont décidé quoi que ce soit, donc c'est assez
c'est qu'en fait on est d'accord qu'on est sur une couche qui est encore au-dessus de l'habituel, à savoir des permis de construire délivrés par la mairie et des autorisations environnementales délivrées par la préfecture. Là on est sur une couche qui est au-dessus en fait, et qui s'arroche tous ces droits administratifs.
Ouais, complètement. D'ailleurs les permis de construire sont pas du tout délivrés par les maires. La seule maîtrise qu'ils ont encore, c'est les plans locaux d'urbanisme, les PLU. Mais en fait, pour avoir discuté avec pas mal d'élus, la pression est si forte que leur PLU, il vaut que dalle. Enfin, c'est une opération d'intérêt national. C'est vraiment hyper précis comme opération. Et ils lâcheront rien en face. Ouais. Donc c'est très compliqué de lutter sur un espace qui est marqué par une OIN.
Ouais. Qui en fait fait qu'on n'a pas face à nous des élus, mais des administrateurs d'État, c'est ça le...
Ah ouais, des administrateurs d'État, mais surtout des administrateurs professionnels. Mmh. C'est qu'ils lâcheront rien. Par exemple, ils ont obligation de faire des enquêtes publiques. Et là c'est vraiment la...
la comédie, enfin c'est l'enfer en fait. Si t'assistes à une enquête publique, tu vois que t'as des citoyens en face qui sont contre le projet ou alors qui se posent des questions, mais en fait qui sont plus que légitimes. Enfin, ouais, c'est chez toi. Enfin, bon, je pense qu'on est pas mal à connaître le droit à la ville, tout ça. On est assez familier, donc enfin, c'est à eux en vrai de décider ce que l'habitat devrait, enfin ce que leur habitat devrait devenir. Et en face, t'as des professionnels de ces enquêtes qui, en fait, ne te demandent même pas ton avis, prennent en compte, notent quelque part, oui, d'accord, avis négatif, nanana. Mais en fait, ça n'a aucune vocation à changer quoi que ce soit au projet. Enfin, c'est horrible quand ils parlent de démocratie participative, mais c'est une supercherie. Enfin, c'est... Donc voilà, oui, on est face à un espèce de déni de démocratie. Et en fait, ces dénis-là font que l'opposition grandit. Donc tant mieux pour nous. Enfin, tant mieux pour nous. Tant mieux que des citoyens, on va dire, plus lambda, ou du moins peut-être moins politisés, moins dans la confrontation, ou peut-être moins familiers de ces modes d'action, d'occupation.
Qui croient en fait encore à ces instances démocratiques.
Ouais,
en fait.
Enfin, ils y croient, ils croient que c'est encore possible. Ils croient que, enfin là, tu vois, typiquement, il y a un copain qui nous parlait de recours juridique, faut continuer, mais oui, très bien, il faut continuer. Mais en fait, enfin voilà, on est quand même assez... Enfin, la désillusion est hyper forte, quoi. Et c'est trop bien parce que, enfin, c'est trop bien. Bon, c'est trop bien parce que l'État, j'en ai marre, mais c'est trop bien parce que.
À ces moments, il révèle sa vraie face, en fait.
Ouais, ouais, sur les grands projets inutiles comme ça, c'est et imposé autoritairement. C'est ça surtout, c'est que ils arrivent à nous faire croire qu'il y a de la démocratie participative, mais ce terme ne veut tellement rien dire. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui pourtant étaient hyper légalistes, hyper citoyennistes. Ben, te disent, mais bravo, occupe le champ, mais occupe-le vraiment, quoi. Et c'est quand qu'on fait une ZAD, genre, ils se posent vraiment cette question-là, et c'est trop marrant, quoi. Des retraités qui jamais auraient fait ça de leur vie, en fait, c'est hyper violent ce que tu te prends en face, du coup, bah ouais, ça radicalise les luttes, et, enfin, les moyens, en tout cas, d'action, et tant mieux que les gens se rendent compte que c'est ça qui marche, en fait.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 66.3 FM, et donc on était très content de pouvoir faire un reportage donc dans l'Essonne, sur le plateau de Saclay. Et donc, bon, il se trouve que le Grand Paris est gourmand. Il est gourmand en terre, et il est gourmand en espace, et aussi il produit beaucoup de choses, il produit beaucoup de déchets notamment. Et donc, pour nous en parler, on a donc Marie-Joseph Mazure du collectif Association des Forces Santé Environnement. Alors, est-ce qu'on a la personne au téléphone ?
Je suis là.
Oui, très bien, c'est parfait. Et donc ça c'est du côté de Étampes, puisque donc le Grand Paris produit des déchets, et ces déchets il faut les mettre quelque part, et ce quelque part pourrait bien être autour de Étampes.
Oui, autour d'Étampes, dans un village de 300 habitants, au bord d'un plateau de Beauce, dans une zone en pente, au bord d'une rivière, d'une toute petite rivière, dont sa source se trouve au village justement de Saint-Hilaire. Et cette petite rivière s'appelle la Louette.
Et alors, donc, quel est le projet exactement qui se situerait à Saint-Hilaire ? C'est une décharge ? Quelle forme ça prend ça ?
Alors, cela s'appelle une ISDI, installation de stockage de déchets inertes. En réalité, il s'agit de déposer des déchets qui, je l'espère du moins, seront inertes. On nous a présenté cela comme de la terre et des cailloux en provenance du métro du Grand Paris. Et ce serait déposé sur 34 hectares pendant 8 ans. Il y aurait 1 400 000 tonnes de déchets, tonnes ou mètres cubes, c'est à peu près équivalent, qui serait déposé donc sur 34 hectares de terres agricoles.
Parce que alors, oui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que souterrain, de toute façon, tous les remblais, enfin tous les décaissements, ils produisent de la terre qu'il faut mettre quelque part. Et donc là, il faut comprendre que donc Étampes, on est en troisième voire quatrième couronne de Paris. On est dans le tout à fait sud de l'Essonne. Dans un espace qui est, pour le coup, encore très largement... c'est assez rural, cet endroit-là. Et donc, c'est des paysages qui sont plus du tout urbains, enfin, plus spécialement, quoi.
Il y a l'agglomération d'Étampes, qui est tout de même une ville de 30 000 habitants.
Oui.
Mais en dehors de cela, ce sont des villages qui ont une moyenne de 500 habitants.
Ah, c'est ça. Et donc, c'est là qu'on mettrait tous les déchets. Donc, il s'agirait donc là, pour cette décharge, de décaisser pour remettre des déchets. Alors, comment ils s'y prennent ?
Alors, ils décaissent la couche arable. Nous sommes dans la Beauce, donc il y a une couche arable qui est assez importante qui permet des cultures de blé avec de blé et d'autres céréales et également d'autres cultures, mais avec de très bons rendements. Ici, nous sommes en bordure du plateau de Beauce, auprès d'une vallée, et donc dans une zone en pente et qui a des terres peut-être légèrement moins bonnes que la plupart des terres de Beauce.
Et donc l'idée, c'est de d'y mettre les gravats et l'ensemble des remblais et des déblais de ce Grand Paris Express et de remettre la terre par-dessus pour en refaire une terre agricole. C'est ça le principe.
C'est ce qu'on nous a présenté début février. Mais les agriculteurs qui connaissent la manière dont on cultive n'en sont pas dupes du tout. Si on met des remblais sous la couche arable, ce sera pratiquement impossible de pouvoir cultiver par la suite.
Oui, parce que la couche arable, elle est nourrie par le dessous, notamment du point de vue des minéraux. Ouais.
D'autant plus que les terres qu'on va apporter seront très probablement, puisqu'elles ne proviennent pas du même endroit, de nature différente du substrat. Et en plus, cela risque de provoquer des glissements de terrain, des inondations dans la vallée en contrebas, ce qui se produit d'ailleurs de temps en temps. On a l'expérience de cela, ça se produit dans la vallée de temps en temps. Il y a des terres qui descendent lors d'un orage qui est assez abondant.
Alors là, on est sur des terrains, contrairement un peu à l'habitude, où en général ils passent par une expropriation. Alors là, c'est un terrain privé et le propriétaire est plutôt d'accord avec ce projet pour l'instant.
Il est même tout à fait d'accord. Et nous le soupçonnons plus que cela d'avoir acheté ces terrains. Il en a acheté 180 hectares et il compte mettre des déblais sur 34 hectares. Mais nous nous demandons s'il n'a pas acheté ces terrains exprès pour en tirer profit, un profit encore plus important et plus immédiat que celui de la culture.
D'accord. Alors donc ce projet, il en est où là? À quelle phase du projet on est dans?
Alors nous sommes au tout début du projet. Le projet a été déposé le 2 février, très exactement, par l'entreprise Bouygues, qui est chargée en grande partie, pour une partie des travaux du Grand Paris. Et donc cette entreprise viendrait déposer à Saint-Hilaire, sur 34 hectares, des déblais du Grand Paris.
Donc là, pour l'instant, on en est au moment de l'instruction, c'est-à-dire que l'enquête publique n'a pas encore eu lieu, c'est ça ?
Nous savons que ce sont les services de la DRIE, les services de l'État, qui instruisent le dossier et qui vont, d'après les dernières nouvelles que nous avons eues, demander des compléments de dossier, des précisions sur la nature des terres apportées, sur la manière de les apporter au niveau du transport, parce que c'est un deuxième problème, c'est que ces terres vont arriver jusqu'au sud de l'Essonne, elles vont faire un bon nombre de kilomètres, peut-être une soixantaine de kilomètres, sur des routes départementales qui ne sont pas adaptées à un gros trafic de camions. Il y a déjà un trafic de camions important sur la départementale qui serait concerné, et c'est une route dangereuse.
Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà on s'en rend compte sur les chantiers, il faut en fait quasiment en général sur les gros chantiers comme ça refaire la voirie autour pour prévoir le chantier lui-même, mais c'est qu'après tout autour dans la région, ça va être des va-et-vient de camions incessants pour apporter des matériaux et pour enlever les déchets qui vont aller ailleurs, et donc ça remplit les routes de camions qui transportent des gravats en gros.
Exactement. Notre association, qui travaille depuis déjà de longues années sur le problème des déchets, avait travaillé sur le plan régional de gestion des déchets il y a quelques années, et il était bien prévu que dans le cadre du Grand Paris, la majorité des déchets devaient être transportés prioritairement par voie fluviale, puis par voie ferroviaire, et dans le dernier des cas, par voie routière. Alors, là, c'est vraiment le cas par voie routière.
Tout à fait. On s'en rend compte, on avait déjà eu le cas pour dans Seine-Saint-Denis pour ce qui est donc des jardins d'Aubervilliers ou d'autres, où en fait la question des déchets est très très problématique quand même pour les grands projets d'aménagement. Ils ne savent pas trop quoi en faire et qu'en fait leur transport et leur stockage coûtent cher, et donc où en général ils vont au plus près et au plus simple, et le plus simple c'est encore de mettre des camions sur la route pour remplir les champs qui ne sont pas trop loin.
Exactement.
Alors on comprend bien donc le sens de votre lutte. Alors on en est où là de la contestation de ce projet?
Alors nous avons eu une, une manifestation dimanche dernier qui a suscité l'arrivée de très très nombreux élus, parce que tous les élus du sud de l'Essonne sont absolument contre. Il y a eu des délibérations qui ont déjà été prises dans différentes communes, dans la communauté d'agglomération dont nous faisons partie, la CASE, qui est groupée autour des Tempes. Et nous avons eu également à cette manifestation de très nombreux élus du conseil départemental, députés, etc. Et surtout beaucoup de candidats aux prochaines élections.
Et donc là, donc il y a eu cette manifestation dimanche dernier. Et alors, il faut quand même souligner quelque chose, c'est qu'en fait, cette lutte, et si ça a été si rapide, c'est parce qu'elle est déjà héritière d'une première mobilisation, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il doit y avoir des charges dans ce coin-là.
Exactement. Et cela date de très longtemps. À Saint-Escobille, nous avons eu un projet de centre de stockage de déchets dit ultime. C'était un peu différent, parce qu'il s'agissait de déchets mélangés, déchets industriels. Il avait été déposé en 2002 et il n'a pas réussi à aboutir. Nous avons fini par gagner en 2016. Mais auparavant, au début du siècle dernier, il y avait eu aussi un centre, à l'époque on disait simplement une décharge, un centre de stockage de déchets à Saint-Escobille, et ces déchets arrivaient par train. Donc nous avons régressé.
Tout à fait. Et de toute façon, on voit bien comme ça que c'est cette grande couronne de l'Île-de-France, elle doit régulièrement accueillir les déchets, les externalités de Paris, de tous ces déchets qu'il produit. Mais bon, c'est intéressant de voir quand même que donc cette lutte, elle est plus activée parce qu'elle hérite d'un tissu associatif qui était préexistant et qui a pu se mettre en branle assez rapidement. Ce qui est intéressant, ça montre un peu que ces mobilisations, elles sont un peu héritières de l'héritage politique de ces espaces.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la fois précédente, à Saint-Escobille, nous avions réussi aussi à faire l'unanimité au niveau des élus. C'est la même chose cette fois-ci.
Très bien. Bon, ben, on espère bien que cette contestation, elle va s'amplifier et l'emporter encore une fois. Donc, on avait la manifestation dimanche dernier. Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Comment on fait pour vous contacter?
Alors,
comment on fait pour vous suivre?
Bien sûr, vous avez notre site, ADSE-Saint-Escobille. Et puis également, pour l'instant, nous ne prévoyons pas dans l'immédiat d'autres manifestations, mais ce qui va se produire dans le cadre de l'instruction du dossier, c'est qu'il y aura une consultation publique. Et c'est à ce moment-là que nous recommencerons à susciter la participation de tous les habitants, bien au-delà des habitants proches de Saint-Hilaire.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affaire de déchets, donc elle concerne la ville dans laquelle le collectif est, mais qu'en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que pour le Grand Paris, en fait, ça va être tout un ensemble, au moins une trentaine d'endroits qui vont devoir accueillir ces déchets-là et qu'il va falloir peut-être même se dire que cette lutte-là, elle est pas, enfin, il faudrait pas qu'elle soit isolée dans le sens où la question se pose en fait à plein d'autres endroits.
Bien sûr. Justement, c'est notre but de nous retrouver avec les autres associations, les autres collectifs qui luttent pour la même cause. Il y a un projet assez proche de nous, dans le Sud-Essonne, à Mépuis.
D'accord.
Qui est un peu moins important, qui pour l'instant n'a peut-être pas suscité autant d'opposition, mais nous voulons nous unir avec eux pour justement empêcher cette prolifération des déchets. Le Grand Paris ne profite en rien aux habitants du Sud-Essonne, il leur apporte seulement des désagréments.
C'est ça.
Il les obligera à en payer les impôts.
Eh bien, dans ces cas-là, on va suivre l'affaire, de toute façon, et puis on réactivera, enfin on fera savoir quand il faudra réactiver, comme vous dites, toutes les mobilisations au moment de l'enquête publique. Et puis on souhaite bon courage et bonne lutte pour la suite.
Merci beaucoup, nous vous tiendrons au courant.
Très bien. Eh bien nous, on va se quitter donc avec une petite vignette en provenance de Bure. Donc autre déchet, autre lutte. Il nous envoie une petite vignette, enfin qui est publique, pour appeler donc à se mobiliser très prochainement concernant les procès que certains militants ont eu, enfin vont avoir.
Tous et toutes à Bar-le-Duc le 1, 2 et 3 juin contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation de nos luttes.
Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs,
des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie,
un dossier de 15 000 pages,
des mètres cubes de matériel saisis,
un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme,
l'heure de la mascarade judiciaire a sonné.
Les 1er, 2 et 3 juin au tribunal de Bar-le-Duc se tiendra le procès des 7 malfaiteurs de la lutte à Bure.
Des amis luttant contre le projet de méga poubelle atomique Cigéo ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler pendant de longues années.
Cette procédure a constitué une peine et a tenté de paralyser tout un mouvement de résistance.
Ce qu'on muselle chez ces personnes, c'est leur engagement anti-nucléaire, leur conviction et leur liberté d'expression.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Nous sommes toutes des malfaiteurs. Il n'y a toujours aucun déchet nucléaire à Bure. Pour autant, nous sommes à un moment charnière, car Cigéo pourrait bientôt être reconnu d'utilité publique.
Expropriation, défrichement du bois Lejus et premier chantier pourraient voir le jour d'ici 2022. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce procès des malfaiteurs sera surtout le procès de Cigéo et du nucléaire.
Il est temps de dénoncer l'association de malfaiteurs comme outil de criminalisation de nos luttes. Cet outil juridique, issu des lois dites scélérates et de l'antiterrorisme, est utilisé pour tenter de paralyser toutes les formes d'auto-organisation, partout en France et ailleurs.
Contre des gilets jaunes, des personnes des quartiers populaires, des antifascistes, des écologistes.
Leur justice en carton-pâte ne nous fait pas peur. Les 1er, 2 et 3 juin, réunissons-nous à Bar-le-Duc devant le tribunal. Soyons nombreux et nombreuses à affirmer notre opposition au nucléaire, à soutenir nos amis, à célébrer toutes nos luttes et à dénoncer cette instruction.
C'est le moment d'enterrer Cigéo.
Rendez-vous les 1, 2, 3 juin à partir de 9h à Bar-le-Duc devant le tribunal et mardi 1er juin à 14h pour un cortège festif.
Possibilité d'hébergement sur Bure et alentour. Plus d'infos sur la mobilisation sur burburbure.info
et sur noussommestousdesmalfaiteurs.noblog.org.
Bien, et ben donc l'émission se clôt ainsi. Bon, on est très très content, on est deux fois content hein, d'avoir d'abord pu faire du reportage dans l'Essonne, on avait enfin pu ressortir le micro, on l'avait déjà fait, mais ça fait quand même vraiment toujours plaisir, malgré surtout le marasme politique dans lequel on est, et aussi d'avoir retrouvé les studios. On était en direct du studio et puis en direct de Reaper, donc c'était quand même bien. Et donc on remercie bien donc toutes les personnes du collectif contre la ligne 18 hein, qui nous ont fait cette visite du plateau. C'était vraiment chouette de passer le dimanche avec eux et elle surtout, et donc voilà, donc la merci pour cette visite, et ainsi que donc merci à Marie-Joseph pour l'explication de cette affaire de déchets dans le Sud-Essonne. Évidemment, bon bah on suivra toutes ces affaires, on essaiera aussi de suivre cette affaire de donc le procès hein, le 1, 2, 3 juin à Bar-le-Duc. On sait pas encore qui c'est qu'on va envoyer, mais on va peut-être essayer d'avoir des reporters quand même, ce serait bien. On garantit rien, mais ce serait bien. Et voilà, et donc bah nous bah voilà, on vous souhaite une bonne soirée, on vous laisse avec Musique Antille, et voilà, à la prochaine.
Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes.
FPP achète bientôt une nouvelle table de mixage pour remplacer la console actuelle qui devient obsolète. Retrouvez le lien de la cagnotte sur rfpp.net ou sur notre page Hello Asso.
Je me sens fric, alors donnez-le-moi, bordel de Dieu.
Fric, fric, toujours parler de fric.
C'est mon argent.
Fric, fric, on a besoin de fric.
Alors soutenez la voix des sans-voix.